Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, des postes transformés en résidences pour personnes âgées. Face au déclin du courrier, La Poste cherche toujours de nouvelles pistes d'adaptation. Alors réflexion en cours dans 14 villes moyennes, d'Annecy à Brest ou de Perpignan à Metz. Quand un journal de référence change son vocabulaire pour parler du climat. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Comment dire la gravité de la situation, initiative du quotidien britannique The Guardian.
Urgence ou crise climatique plutôt que changement climatique, embrasement et non réchauffement global. Si le quotidien change son vocabulaire, c'est parce qu'il faut rendre compte de la façon la plus juste d'une réalité grave.
À propos d'écologie, que disent les Parisiens à pied ou au volant de la dernière promesse d'Anne Hidalgo, rendre aux piétons, aux arbres, aux oiseaux, l'axe Tour Eiffel Trocadéro saturé de voitures aujourd'hui. Reportage de Thibault Lefebvre. Européenne, J-4, le débat ce soir sur France Inter et France 2. Vous entendrez les représentants de 15 listes tout au long de la soirée pour vous faire une opinion. Pour choisir, il y a aussi le comparateur de programme que vous propose franceinter.fr. Certains ont déjà commencé à voter, les détenus de la prison de Besançon sous le regard du conseiller pénitentiaire.
Ça crée des débats entre détenus, soit des gens du voyage par exemple, soit détenus d'origine maghrébine, qui au lieu de s'en prendre directement par la voie physique, il y a eu de l'échange politique.
D'autres échos tout à l'heure au micro de Béatrice Duguay à l'occasion de ces européennes. Y a-t-il une attaque massive de fake news ? Infox, nous poserons la question à notre invitée Julie Deruy de l'ONG Avaaz qui vient de mener une étude à ce sujet. Dans cette édition encore, British Steel, le repreneur d'Ascoval officiellement en faillite. Cela ne change rien pour Ascoval, assure Bercy. En faillite aussi les restaurants de Jamie Oliver, le cuistot star en Grande-Bretagne en a trop fait. Et puis le directeur de Bein Sport mis en examen pour corruption active, c'est l'enquête sur les mondiaux d'athlétisme au Qatar. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit le monsieur de Météo France ? Le monsieur dit que ça ne va pas si mal.
Effectivement, temps nettement plus calme et ensoleillé que les derniers jours. Le ciel sera le plus souvent dégagé ou partiellement voilé. Impression plus nuageuse tout de même entre la Haute-Normandie et les frontières belges. Et puis les Alpes du Sud et les hauteurs corses verront quelques averses se développer avec également des risques d'orage. Et puis les températures dépasseront quasiment partout les 20 degrés avec jusqu'à 27 voire 28 degrés sur les régions méditerranéennes.
Et au plan cinéma, grand beau temps sur Cannes. Eva Bétan nous dira que c'est un grand cru que cette édition 2019. On a déjà passé la moitié du festival. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Comment mieux dire une, deux évolutions de société. Les hôtels des postes sont moins utiles qu'avant. Déclin du courrier oblige. En revanche, on a besoin de plus en plus de résidences pour seniors. Et si les premières, les postes, étaient reconvertis et devenaient les secondes des résidences pour seniors ? Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
L'idée, Fabien, fait son chemin.
Oui, la Poste reconnaît être en pleine réflexion sur le sujet. C'est dans la droite ligne de la diversification de ses activités depuis plusieurs années, notamment en direction des seniors. Il y avait déjà ces services de visite à domicile dans plusieurs régions. En plus de distribuer le courrier, les facteurs sonnent chez les personnes âgées pour prendre des nouvelles et s'assurer que tout va bien. Là, ce serait l'inverse en quelque sorte, puisque ce sont des personnes âgées qui viendraient s'installer dans des bâtiments appartenant à la Poste. Bâtiments désaffectés du fait notamment de la baisse des volumes de courriers papier à traiter. Dans certains centres-villes comme Roubaix, Brest ou Perpignan, les hôtels des Postes occupent des superficies jusqu'à 5000 m². Ça fait de la place pour aménager des résidences seniors en centre-ville, avec à disposition tous les services postaux dont les résidents auraient besoin. La Caisse des dépôts appelée à devenir d'ici l'an prochain le premier actionnaire de La Poste finance d'ailleurs déjà la construction d'EHPAD en région et compte par ailleurs développer des produits financiers, banques, assurances pour les seniors grâce au mariage annoncé pour l'an prochain également entre la Banque Postale et CNP Assurance.
Et pour l'instant, le projet concerne 14 villes. Les changements de société se voient donc dans la pierre. Ils passent par les mots aussi. À propos du climat, ces dernières années, nous avons été habitués à entendre ces expressions.
En France, les experts y voient un indice du changement climatique.
La planète a la fièvre, le réchauffement climatique est bel et bien provoqué par l'homme.
Les effets très inquiétants du changement climatique sur la Méditerranée.
Changement, réchauffement climatique, quelques extraits de JT. Eh bien Sophie Becherel, pour l'un des journaux européens de référence, Le Guardian, tout cela n'est pas assez fort. Il faut passer un cran au-dessus pour dire la gravité de la situation.
Ni pédant, ni débraillé, cette maxime résume le style du Guardian, du moins depuis qu'elle a été édictée il y a 60 ans dans le guide maison destiné aux rédacteurs du quotidien. Un guide régulièrement révisé afin d'introduire de nouveaux mots pour décrire les faits avec plus de précision et pour mieux rendre compte de l'évolution des connaissances de la société. Et cette fois-ci, c'est du climat qu'il s'agit. Ce sujet, le Guardian l'a mis au cœur de sa ligne éditoriale bien avant les autres il y a 15 ans. Alors désormais, au lieu de changement climatique, les lecteurs liront urgence climatique ou crise climatique ou encore panne climatique. La surchauffe sera préférée au mot réchauffement. Il faut donc être clair et précis, dit la rédactrice en chef. L'expression changement climatique semble plutôt passive et douce, alors que ce dont parlent les scientifiques, c'est une catastrophe pour l'humanité. Catherine Wiener souligne d'ailleurs que les chercheurs eux-mêmes renforcent leur vocabulaire. Les politiques aussi, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a récemment employé le mot crise, comme le chef du Parti travailliste ou le service de la météo britannique. De la même manière, vie sauvage sera désormais préférée à biodiversité et on parlera de population de poissons plutôt que de stock de poissons. Enfin, les lecteurs liront négationniste de la crise climatique plutôt que climato-sceptique. Ce dernier changement sémantique permettra, selon le journal, de mieux choisir les invités lors des débats et de ne pas accorder de temps de parole aux négationnistes. La crise climatique, elle est là, ça n'est plus un problème du futur.
Et après les pierres, après les mots, le paysage, Paris fait de plus en plus de place aux piétons et aux modes de transport doux, au vert globalement. L'approche des Jeux Olympiques 2024 incite à aménager la ville, l'approche des élections aussi. Anne Hidalgo a clairement choisi le créneau écolo, ça passe ou ça casse. En tout cas, une nouvelle étape importante a été franchie hier. L'espace entre la Tour Eiffel et le Trocadéro sera végétalisé et rendu aux piétons d'ici à 2024, promet Madame Hidalgo. Elle assure qu'on y entendra chanter les oiseaux. Quand on sait le nombre de voitures qui passent aujourd'hui, vous commencez à les entendre. C'est une gageure, n'est-ce pas, Thibault Lefebvre?
Oui, un trafic très dense qui se concentre sur le pont d'Iéna. C'est entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Sylvie, elle, habite depuis près de 60 ans rive gauche. C'est donc du côté de la Tour Eiffel. Et depuis bien longtemps, eh bien, elle ne traverse plus la Seine.
Du côté du Trocadéro, je n'y vais plus. J'y allais quand j'étais petite, je faisais du patin à roulettes. Il y a du bruit partout. Il y a tous les bus, clim tout allumé, tout ouverte. Donc les moteurs sont à fond, c'est insupportable.
Vous pourriez retrouver le Trocadéro de votre enfance?
Peut-être.
Un Trocadéro végétalisé donc, comme actuellement le Champ de Mars, c'est entre la Tour Eiffel et l'école militaire. Daniel arrive de Santander, c'est en Espagne, et c'est l'heure de la pause pique-nique sur l'herbe pour ce touriste et sa famille.
Un parc avec arbres, sans voiture, sans gaz d'échappement, c'est ce qu'il y a de mieux pour se détendre en vacances. C'est une idée géniale, on devrait faire ça partout, dans toute la ville, avec des modes de transport alternatifs que l'on va avoir dans un futur proche.
Il y a donc les enthousiastes, vous l'avez entendu, et évidemment ceux qui sont beaucoup moins convaincus, et là encore, ça a à voir avec les modes de transport. Valentin est chauffeur privé et il dépose régulièrement des touristes au pied de la Tour Eiffel.
Je ne sais pas où est-ce qu'on pourra les déposer, mais si on ne s'arrêter parce qu'il y a des endroits sur Paris où on s'arrête deux secondes pour déposer un client et il y a tout de suite un policier derrière. C'est un peu compliqué quoi, la ville de Paris.
Le jardin du Trocadéro sera dans 5 ans le plus grand jardin de Paris. Le budget, 72 millions d'euros payés indirectement par la société qui exploite la Tour Eiffel.
Les mots, le paysage, les pierres, tout cela évolue. Le débat intellectuel aussi. Antoine Gallimard annonce et a justifié la disparition de la revue Les Temps Modernes. Cet après-midi dans le journal Le Monde, il n'était plus ce lieu de rencontre entre le questionnement critique et le public. Les Temps Modernes, revue fondée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Est-ce que cela signifie que la reprise d'Ascoval est compromise, voire à l'eau? Bercy assure que non, mais il y a tout de même un nuage. Antoine Gignot, vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Le repreneur d'Ascoval, British Steel, a été placé en faillite sous administration judiciaire ce matin.
Ce dépôt de bilan, ce sont les responsables des syndicats qui l'annoncent et ils lancent un appel à l'aide. 5000 emplois pourraient disparaître au Royaume-Uni, 20 000 avec les sous-traitants, sans compter les salariés basés à l'étranger, aux Pays-Bas et en France, dans l'usine d'Ascoval rachetée par British Steel au début du mois de mai. Pour l'instant, les hauts fourneaux continuent de fonctionner, les salaires continuent d'être payés, mais le groupe passe sous administration de l'État britannique en attendant de trouver un repreneur. L'incertitude liée au Brexit a fait baisser les commandes de près de 25% dans l'usine de Scunthorpe, qui produit les rails de chemin de fer. La chute de la livre sterling a fait augmenter le prix des matières premières et la facture correspondante aux émissions de dioxyde de carbone a, ces dernières semaines, précipité le groupe vers la faillite. Après un premier emprunt de 150 millions d'euros à l'État, British Steel demandait 35 millions supplémentaires pour éponger ses dettes, une rallonge refusée par le gouvernement. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et donc cette précision de Bercy à Ascoval et ses 270 salariés à Saint-Saulve dans le Nord ne sont pas concernés par la liquidation. C'est ce qu'assure donc le ministère de l'économie. Le plan de reprise n'est pas remis en cause. Autre British en faillite, Jamie Oliver, la star de la cuisine. Ses restaurants sont placés sous administration judiciaire. Un millier d'emplois sont supprimés. Jamie Oliver, c'est le beau gosse qui était à la fois chef, Boss, animateur télé et auteur de livres de cuisine vendus au-delà de cette frontière, de ses frontières. Cela fait beaucoup de choses, peut-être trop. Écoutez le critique gastronomique Perico Legas.
Nous sommes dans une époque où on croit que parce que le succès médiatique est là, on va pouvoir développer inconsidérément un projet qui marchait bien au départ. Et donc il a été victime de son gigantisme. Il y a un seuil qu'il ne faut pas savoir franchir. Et lui, comme il était dans ce concept de cuisine italienne, moyen de gamme, on va dire très correct, mais sans plus, effectivement, il n'y avait pas de renouvellement, puisqu'à 25 établissements, on ne peut pas se renouveler, on ne peut pas se remettre en cause aussi facilement. Et aujourd'hui, la clientèle, elle butine. Comme il y a tellement d'autres types d'offres aujourd'hui sur le marché par Internet, avec la restauration à domicile, on appuie sur une touche, on se fait livrer ce qu'on veut. Aujourd'hui, faire du pseudo-industriel avec juste la gueule du mec, parce que c'est une star, ça suffit plus à maintenir une clientèle pendant des mois et des années. Dans la fidélité d'un concept.
Un propos recueilli par Sébastien Sabiron. Nous en venons à la campagne des européennes, J-4 avant les élections, et la campagne, c'est sur France Inter et franceinter.fr. Sur notre site internet, un comparatif des programmes vous est proposé pour comparer en plus les personnalités et propos des candidats ou responsables politiques. Il y a le débat de ce soir sur France 2 et France Inter, toute une soirée pour entendre les représentants de 15 listes. Alors les tendances à quelques heures de ce débat, les sondages qui ne sont pas des prévisions, rappelons-le, photographient un taux d'abstention très important, autour de 60%. Deux listes qui se détachent au-dessus des 20%, celle du Rassemblement National devant la liste de La République En Marche. Dans Lyon, hier, Marine Le Pen s'en est pris à ses autres adversaires. Extrait du meeting dans l'ordre. Les flèches pour la France Insoumise, la droite républicaine et l'extrême droite du Pont-Aignan Philippot.
La France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. Ils sont sous la coupe de la CDU de Madame Merkel. Qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 11, ça changera rien. Vous avez encore quelques jours pour aller dire à ceux qui veulent voter pour des petites listes qui ne feront pas les 5%, qui n'auront donc pas d'élus, que leur voix va être gâchée.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon appelle ses électeurs au combat pour la création de la force européenne de gauche dont l'Europe a besoin. Chez les socialistes, il faut sauver le soldat Glucksmann après Bernard Cazeneuve. Martine Aubry, Lionel Jospin et François Hollande appellent à voter pour la liste Place Publique PS. Christiane Taubira est aussi intervenue ces derniers jours. À droite, François-Xavier Bellamy à Villeurbanne hier soir. Sa liste est la seule au-dessus des 10% avec les deux grands favoris. Message aux électeurs, ne votez pas seulement contre les deux en question.
Et vous êtes là parce que vous avez décidé que vous vouliez voter pour, que vous n'en pouviez plus des élections tristes, que vous n'en pouviez plus des élections par défaut, que vous voulez voter pour.
François-Xavier Bellamy, qui dans la grande affaire médiatique de ces derniers jours a pris position pour le maintien des traitements à Vincent Lambert, ce qui embarrasse une partie de son camp, Karine Bécard.
Les députés, les Républicains, se montrent beaucoup moins affirmatifs que leur tête de liste aux élections européennes. Même le très catholique Philippe Gosselin est plus nuancé sur l'affaire Lambert que François-Xavier Bellamy.
Je crois que quels que soient nos courants de pensée, notre philosophie, nos religions éventuellement, nos approches peuvent être un petit peu différentes.
Clairement différentes, même pour Daniel Fasquelle. Le député du Nord, LR également, n'a pas franchement apprécié que François-Xavier Bellamy se soit avancé aussi rapidement sur un tel sujet.
En ce qui me concerne, moi je préfère effectivement être plus en retrait et surtout en tant que juriste, moi je crois qu'il faut laisser les juges et les magistrats faire leur travail.
Manière de dire que ce n'est pas aux politiques de s'en mêler. Alors est-ce que la tête de liste à droite aurait fait passer un peu trop vite ses convictions avant les idées de sa famille politique? Le député de Paris, Claude Goasguen, préfère jouer l'apaisement.
Je ne dis rien contre ceux qui se prononcent dans un sens comme dans l'autre. Simplement, il y a un peu de dignité quand même dans la manière de le faire. Et notre candidat était digne, même si on ne partage pas tous son avis.
En réalité, peu sont d'accord avec lui, mais à 4 jours du scrutin européen, les députés LR ne taperont pas sur leur candidat.
Le débat sur France Inter et France 2, c'est à partir de 21h ce soir, mais émission spéciale dès 19h à la radio. Un téléphone sonne notamment consacré à l'abstention des jeunes. Vos questions, vos interventions et témoignages, 01 45 24 7000 à partir de 18h ou franceinter.fr. Dans l'actualité politique encore, les regrets de François Hollande de ne pas s'être représenté en 2017 à la présidentielle. Je n'aurais peut-être pas été réélu, mais j'aurais défendu mon bilan. Alors est-ce que lors de ces élections, il y a, comme on le redoutait, une offensive des auteurs de fake news? L'ONG Avaaz publie une étude sur ce sujet des infox, pour le dire en français, et l'une de ses représentantes, Julie Deruy, est en duplex avec nous depuis Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Et merci à Pierre Benazet qui vous accueille dans les studios de Radio France à Bruxelles. Alors, vous avez repéré 500 pages et groupes concernés qui mettent en place des fake news sur Facebook, des pages suivies par 32 millions d'internautes. Alors, pardon pour le côté basique de ma question, mais sur une échelle qui irait de calme plat à attaque massive, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils signifient ? C'est beaucoup ou pas ?
Ah ben, ces chiffres, ils signifient effectivement une attaque massive de désinformation en Europe, parce que, comme vous le disiez, l'investigation d'Avaz arrive à une estimation de plus d'un demi milliard de vues sur ces réseaux. Et là, on parle d'une investigation qui a été faite uniquement sur Facebook, dans 6 pays sur 27, et ces 3 derniers mois. Donc c'est la partie émergée de l'iceberg, et ça donne une idée de l'ampleur du phénomène.
Est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait de l'origine des fake news, pays, courants politiques, que sait-on de cette origine ?
Ben, c'est la difficulté de ces investigations, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire, on ne peut pas trouver qui sont derrière ces réseaux, ces pages, ces comptes. Donc on donne nos informations à Facebook et eux peuvent après faire leurs propres investigations. Après, on a vu que les thématiques présentes sur ces réseaux de désinformation étaient clairement des thématiques propices à l'extrême droite. Donc tout ce qui concerne les migrants, les musulmans, et notamment en amont des élections européennes.
Et des pays d'origine plus particuliers ?
Des pays d'origine, bah nous, notre investigation se portait sur 6 pays européens. Là, les pays où on a vu les plus gros réseaux avec la plus grosse portée, c'était en Italie, en Espagne et en Pologne. Mais en France, tout de même, on arrive à plus de 1,7 million d'utilisateurs qui suivaient ces réseaux. Ouais.
Ces pays-là, vous les aviez choisis justement parce qu'ils ont la réputation d'abriter plus que d'autres des fermes à fake news, pour reprendre une expression qui circule parfois.
Ces pays-là, on les a choisis parce que ce sont les pays qui ont le plus de citoyens, en fait,
donc qui
comptent, entre guillemets, beaucoup dans les résultats des élections européennes. Et c'est pour ça qu'on s'est focalisé là-dessus.
Alors, vous le disiez, vos signalements ont permis le retrait de contenu qui avait réalisé 500 millions de vues. Est-ce que Facebook réagit plus vite qu'avant ? Est-ce que le message selon lequel, voilà, maintenant il faut passer au stade au-dessus dans la réponse à ces fake news, est-ce que ce message est en train de passer ?
Alors, Facebook réagit, oui, mais pas assez. On sait aujourd'hui que la désinformation, elle circule 6 fois plus vite que la vérité sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tout le monde doit se battre pour la vérité. Les citoyens, les plateformes, effectivement, et aussi les leaders politiques. Et ce qu'on demande à Facebook aujourd'hui, c'est de corriger les intox. Aujourd'hui, Facebook propose aux utilisateurs qui vont partager une information qui a été flaguée, entre guillemets, par des fact-checkers indépendants comme France Inter, leur propose un correctif, mais il faut que Facebook propose ce correctif à tous les utilisateurs pour pouvoir vraiment réparer les réseaux sociaux.
On est à 4 jours de l'élection, donc on est des élections européennes, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Est-ce que traditionnellement, il y a des offensives de fake news plus nombreuses en toute fin de campagne ? Autrement dit, est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant maintenant ?
Aujourd'hui, je peux pas vous donner les chiffres de la désinformation de cette semaine parce qu'on ne lit pas encore l'avenir, mais effectivement que nous sommes sur le guet et que on s'attend à une recrudescence encore plus importante juste en amont des élections et qu'on va continuer à monitorer tout ça absolument.
Quelques conseils pour les gens qui nous écoutent, citoyens qui pourraient éventuellement se faire avoir par des fake news, qu'est-ce qui doit nous alerter, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Se rendre sur les sites internet des fact-checkers indépendants, donc des journaux, et puis surtout signaler à Facebook, ou signaler à Avaz, parce qu'on a aussi notre propre plateforme internet pour ce genre de signalement, l'information que vous pensez être trompeuse, pour qu'elle puisse ensuite être vérifiée et être remontée à Facebook dans la foulée.
Merci Julie Deruy d'avoir répondu à nos questions et cette étude de votre ONG Avaz. On retrouve les détails sur franceinter.fr. Les européennes commencent dès demain en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. En France, ce sera dimanche, mais certains Français ont déjà commencé à voter. Les détenus qui ont le droit de voter ont commencé à le faire. Et ils sont plus de 5000 à remplir les conditions, c'est-à-dire ne pas être déchu de ses droits civiques, avoir des papiers d'identité, être inscrit sur les listes électorales, vote par procuration ou avec autorisation de sortie. Ça, ce sera dimanche ou bien, et c'est nouveau cette année, par correspondance, ils peuvent le faire aujourd'hui encore. Reportage à la prison de Besançon, Béatrice Duguay.
Voter en prison, c'est sortir de la cellule.
et c'est exercer un droit que certains découvrent.
C'est la première fois que vous votez.
Ah ouais, j'en ai 20 ans.
Je mets la blanc.
Dans cette enveloppe bleue, vous mettez la liste que vous retenez.
Et ça,
vous mettez votre enveloppe 2 dans l'enveloppe blanche.
Ouais,
les autres listes que vous ne retenez pas, bien sûr, vous les mettez
en poubelle
et vous vous rendez auprès des directeurs.
La Maison de l'Europe et la faculté de droit de Besançon sont en fait venues sensibiliser les détenus depuis plusieurs mois, une éducation civique, mais aussi une aide à établir des papiers parfois, et un encouragement au débat politique sous les yeux d'Olivier Culot, conseiller pénitentiaire à la Maison d'arrêt de Besançon.
Ça crée des débats entre effectivement les détenus et les intervenants, mais aussi entre détenus, soit des gens du voyage par exemple, soit détenus d'origine maghrébine, qui au lieu de s'en prendre directement par la voie physique, il y a eu de l'échange politique. Certains disaient que nous on était exclus, d'autres disaient mais non, t'avais qu'à faire appel effectivement aux députés européens, etc. C'était quelque chose de fabuleux.
Au point que David, 51 ans, détenu condamné, aujourd'hui coiffeur de la prison, bac plus 2, qui a toujours voté, que David donc a cherché à convaincre l'un des jeunes d'accomplir son devoir civique en européen convaincu.
Je lui dis pourquoi tu ne votes plus maintenant ? Il me dit... Moi, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis donc, tu acceptes que les autres prennent des décisions pour toi ? Il m'a dit non. Pour eux, l'Europe, c'est loin, alors que l'Europe est dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau de nos produits, que ce soit au niveau de notre façon de vivre de tous les jours. L'Europe est présente partout.
La prison est un lieu de privation de liberté, certes, mais pas d'expression.
Et les enveloppes ont été envoyées à Paris, où elles seront dépouillées dimanche, comme les autres bulletins. Voilà qui suscitera des échos chez les manifestants gilets jaunes qui parlent de violences policières et espèrent des poursuites. Il arrive que des CRS aillent en cour d'assises. C'est exceptionnel, mais voici un cas. Un CRS renvoyé aux assises pour l'usage d'une grenade de désencerclement lors d'une manif contre la loi travail le 15 septembre 2016. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Un militant du syndicat Sud avait été grièvement blessé à l'œil.
Oui, Alexandre M, 51 ans, brigadier chef, est renvoyé pour violence volontaire, ayant entraîné une infirmité permanente sur Laurent Théron. En l'occurrence, le syndicaliste a perdu la vision de l'œil droit. Ce jour-là, les affrontements ont été violents entre une centaine de manifestants véhéments et des CRS tout au long du cortège, avec des jets de cocktails Molotov. Peu avant 17h, le calme est revenu, la foule est éparse sur la place de la République. Le CRS n'a pas d'habilitation pour tirer cette grenade de désencerclement. Il la lance en l'air au lieu de la faire rouler à terre. Le syndicaliste qui quittait la place reçoit un des galets en caoutchouc dans l'œil. Il n'y avait pas de danger immédiat. Voilà ce qui explique ce renvoi aux assises. Inacceptable pour la secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police FO, Linda Kebab.
C'est un homme aujourd'hui qui est effondré, qui n'est pas un criminel. C'est un fonctionnaire de police qui a d'excellents états de service. Et aujourd'hui, on le renvoie aux assises dans un contexte social et politique, en l'occurrence les mouvements des Gilets jaunes, où on a ce débat sans fin sur des violences qu'on appelle dites policières, comme si elles étaient systémiques et institutionnelles. Donc on est forcément aujourd'hui dans un combat idéologique et politique.
Alors le parquet avait estimé que le policier devait être jugé au tribunal correctionnel, des réquisitions que n'ont pas suivies les juges d'instruction, en raison notamment de l'infirmité permanente de la victime. C'est une circonstance aggravante. L'avocat du policier a fait appel de cette ordonnance de renvoi.
À la candidature du Qatar aux mondiaux d'athlétisme en 2017 et 2019, cette année a-t-elle donné lieu à des pots de vin ? L'enquête s'accélère. Le directeur général de beIN Sport est mis en examen pour corruption active. En football encore, à propos de Guingamp, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec quitte le club. Nous allons à Cannes à présent. Encore Cannes sous l'effet du souffle Quentin Tarantino, le réalisateur américain qui présentait hier soir au festivalier Once Upon a Time in Hollywood.
C'est maîtrisé, voilà, c'est un immense réalisateur.
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de personnages et il y a un sacré univers.
That's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Et le jeu des acteurs est parfait, Brad Pitt a été exceptionnel.
On est toujours dans le pastiche du Hollywood des années 60, j'ai été très déçu.
J'ai adoré, ça monte en puissance, le son est absolument incroyable, incroyable.
C'est quelqu'un qui aime jouer avec le cinéma, qui aime le jeu pour le jeu et qui n'a pas besoin d'intellectualiser énormément ce qu'il fait, c'est juste.
Et on sort de là secoué.
Hey, you're Rick fucking Dalton, don't you forget it.
Voilà, et merci à Sylvain Lesage pour ce mix de la bande-annonce et des premières réactions de festivaliers qui n'ont pas le droit d'en dire trop sur le film. C'est Tarantino lui-même qui leur a demandé. On ne connaît pas encore la date de sortie. Alors on a dépassé la moitié du festival de Cannes. Tarantino donc, après Terrence Malick, les frères Dardenne, Ken Loach, Pedro Almodovar et avant ce soir Xavier Dolan et Arnaud Desplechin, de grands noms, de grandes scènes de cinéma. Waouh ! Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
C'est un festival de très haut niveau, dites-vous.
Oui, c'est probablement un des meilleurs que j'ai vu depuis des années. Alors c'est important parce que d'une part ces films, vous allez les voir en salle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ça donne de l'énergie, ça donne même le sentiment d'être vivant, de voir des beaux films. Et ça c'est formidable.
Alors des exemples.
Je vous donne des exemples. Prenons L'Adjli, Les Misérables.
Oui. De quoi le premier film français présenté.
Oui, La banlieue Montfermeil. Il dit attention, les petits frères, ils seront pas aussi patients que nous. Il parle de l'intérieur, de la banlieue, vers l'extérieur. Il sait à la fois être sincère, ancré dans le réel et habile. Il sait utiliser le cinéma pour nous atteindre. Et c'est très important. Je vous donne un autre exemple. Une vie cachée de Terrence Malick. L'ampleur de Malick, tout ce que vous voulez. Là, on a un sujet qui est complètement lié à cette sorte de souffle qui l'habite. C'est un paysan autrichien au moment de la Seconde Guerre mondiale qui dit non. Non, je prêterai pas serment à Hitler. Non, je prendrai pas un fusil. Et on est au cœur de l'humanité. Quel est cet impératif intérieur qui fait que certains disent non et que d'autres ne disent pas non? Et il le fait d'une manière formidable.
L'américain Malick, le français L'Adjli, on dit que c'était un grand Almodovar aussi cette année. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un très bon Almodovar?
Oui, alors, il faut pas faire du chichi. Oui, mais c'est toujours bien. Non, c'est formidable quand un film a cette ampleur. Ça s'appelle Douleur et gloire. Quand on est aussi simple pour dire des choses. Et je vous donner un exemple. Il y a une scène que je trouve bouleversante, qui montre le naturel du désir homosexuel. Que c'est normal, c'est naturel. Et c'est une scène d'une simplicité, d'une beauté, j'en dis pas plus. Vous la reconnaîtrez quand le film est en salle, quand vous verrez ce film. Ce naturel, je vais le retrouver chez la française Céline Sciamma, qui est aussi en compétition avec Portrait de la jeune fille en feu. C'est un film d'époque et c'est la naissance du sentiment amoureux chez deux jeunes femmes. C'est le naturel absolu. Bon. Et ça, le cinéma, il fait ça.
On notera que vous avez cité deux Français dans ce pré-palmarès. On est loin du palmarès.
C'était pas mon idée. C'est juste je donnais des exemples. Vous voulez que je vous donne un exemple coréen?
Un dernier.
Le film Parasite de Bong Joon-ho. C'est formidable. C'est le fossé entre les classes. Il y a la manière Ken Loach point levé et sa manière à lui. C'est une fable cinglante avec de l'humour noir. Je vous dis encore un mot. Mmh. Un Brésilien dans le genre fable formidable. Bacurau, Kleber, Mendoza Filho. C'est quelques exemples. Mais je vais vous montrer combien c'est important quand vous avez le sentiment que le cinéma est vivant, qu'il est insolent, qu'il y va.
Et certains films sont effectivement déjà en salle, vous nous le disiez Eva, celui d'Almodovar. Sort aujourd'hui Le jeune Ahmed des frères Dardenne. Et puis il était présenté hors compétition Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch également sur nos écrans. Dans un registre très différent au cinéma ce mercredi, il y a Aladdin de Guy Ritchie.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Après ces journées instables avec de nombreuses averses, retour au calme pour aujourd'hui avec un temps clément. Le soleil brille sans partage au sud de la Garonne et de l'Occitanie à l'ouest provençal, Rhône-Alpes jusqu'en Franche-Comté et en Alsace, ainsi que sur les plages bretonnes et le littoral atlantique. Ailleurs, le ciel bleu est un peu voilé et quelques nuages inoffensifs fleurissent, les éclaircies restant belles et prédominantes. L'impression est plus lumineuse en Haute-Normandie et sur les Hauts-de-France à cause d'un voile nuageux plus épais et même parfois dense. Le sud des Alpes et les hauteurs de la Corse voient quand même des développements d'averses cet après-midi. Ces averses localement orageuses se produisent essentiellement sur les hauteurs et les débordements vers la côte sont rares. Avec ce temps ensoleillé, les températures atteignent ou dépassent le plus souvent la barre des 20 degrés. C'est autour de la Méditerranée que l'ambiance est la plus chaude avec jusqu'à 27 voire 28 degrés cet après-midi.